La Bible dit que au temps des juges, le peuple d'Israël avait une certaine tendance à se rebeller contre Dieu. Alors Dieu envoyait des nations, envoyait des peuples pour affliger son propre peuple, afin qu'ils comprennent que lorsqu'ils pêchent contre Dieu, il y a des conséquences. Alors le peuple gémissait, le peuple pleurait, et le Seigneur, dans sa miséricorde, envoyait des juges pour les libérer de leurs oppresseurs. Alors vint un jour, l'ange de l'Éternel apparut à un homme qui s'appelait Gédéon. En ce temps-là, le peuple d'Israël était sous l'emprise des Madianites, sous l'emprise d'un peuple. Alors, l'ange apparut à cet homme et l'appelant vaillant héros, lui fait comprendre que c'est lui que Dieu a choisi pour être le libérateur de son peuple. Alors, Gédéon va répondre, mais si réellement l'Éternel était avec nous, mais où sont les prodiges que nos ancêtres nous racontaient? Où sont les exploits que Dieu faisait autrefois si réellement Dieu était avec nous? En quelque sorte, pourquoi nous vivons ces choses-là? Et cette question que Gédéon s'est posée, c'est la question que le monde se pose aujourd'hui. Mais si Dieu existe, finalement, pourquoi tout ce mal? Si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a des injustices? Nous entendons parler de Dieu, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas des fables? Est-ce que ce ne sont pas des théories proprement humaines? Si Dieu existe, si Dieu est là, pourquoi tout ceci, pourquoi tout cela? Et cette question que le monde se pose, c'est une question qu'on retrouve aussi, je dirais malheureusement, parmi le peuple chrétien, parmi le peuple de Dieu. Mais si réellement Dieu était avec moi, pourquoi je suis dans telle épreuve? Si Dieu est avec moi, alors pourquoi je souffre? Certains disent, mais depuis que je suis devenu enfant de Dieu, je n'ai que des problèmes, je ne vis que des combats, depuis que j'ai accepté le Seigneur. Bien-aimé, ce sont des questions, en tout cas, si on ne les entend pas proprement dites comme ça, mais dans la manière de vivre, dans la manière de s'exprimer, on laisse sous-entendre qu'on remet en doute la présence de Dieu dans notre vie, on remet en doute l'action de Dieu dans notre vie. Voilà la question que Gédéon se pose. Mais si l'Éternel était avec nous, mais où sont tous ces miracles et ces prodiges que nous avons entendus autrefois, bien-aimés? On peut se poser la question aujourd'hui. Mais lorsque j'ai été maltraité, où était Dieu? Lorsque j'ai été dans la galère, dans le froid, où était Dieu? Lorsque j'ai été trompé par des soi-disant serviteurs, où était Dieu? Lorsque j'étais dans la tourmente, lorsque j'étais au fond du gouffre, où était Dieu? Il y a une chose qui est certaine, bien-aimée, c'est que Dieu est présent. Aujourd'hui, parce que nous l'avons connu, aujourd'hui, parce que nous avons accepté le Seigneur, nous pouvons comprendre que Dieu est avec nous. Nous pouvons réaliser que les fois où nous sommes peut-être passés à côté de la mort, certainement c'était la main de Dieu. Les fois où nous étions dans la maladie, certainement c'était la main de Dieu. Les fois où nous étions abandonnés, que nous avons pu relever la pente, certainement, c'était la main de Dieu. Il y a ceux qui le réalisent aujourd'hui et qui vont vivre conformément à la parole de Dieu, qui vont vivre en mettant foi que réellement Dieu est là. Et il y a ceux pour qui c'est encore une interrogation. Je crois que Dieu est là, mais est-ce qu'il est vraiment là? Et bien aimé, dès l'instant où on remet en doute la présence de Dieu dans notre vie, dès l'instant où nous remettons en doute l'action de Dieu dans notre vie, automatiquement, ça va influencer dans notre vie, ça va influencer dans notre manière de vivre. Une personne qui a la foi marchera dans la paix. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, son comportement manifestera clairement qu'il a cette assurance que Dieu est avec lui. Mais celui qui doute, que Dieu est avec lui, celui qui doute que Dieu agit avec lui, cherchera des solutions dans des systèmes dans lesquels Dieu n'est pas. Cherchera des solutions autres que dans la parole de Dieu. Celui qui doute que Dieu est avec lui, quand bien même c'est Dieu qui l'a placé dans un endroit donné, il cherchera des solutions en allant de gauche à droite. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui tant de chrétiens instables dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cette assurance que là où ils sont, Dieu est aussi là avec eux. Ils vont de gauche à droite cherchant des solutions et de gauche à droite, ils finissent de déception en déception. Nous voyons dans le monde combien les gens du monde cherchent des solutions. En allant consulter des médiums, en allant consulter des voyants, en mettant leur confiance dans le travail, en mettant leur confiance dans la drogue. Ils cherchent quelque chose dans des endroits où Dieu n'est pas. Et ils en sortent de là déception sur déception. Bien-aimés, cure de désintoxication. Parce qu'on pensait trouver le problème dans l'alcool, la solution dans l'alcool. Désintoxication. Parce qu'on pensait trouver la solution dans la drogue. Et finalement, ça finit par des déceptions. Divorce sur divorce. Parce que la solution, on pensait la trouver dans le mariage. Finalement, ce sont des déceptions. Parce que j'ai grandi seul. Parce que j'ai été déçu. Alors, je veux me raccrocher sur quelque chose que j'ai bâti de mes mains. Et ce que je bâtis de mes mains, eh bien, le tsunami est venu et a tout ravagé. Finalement, où est l'espérance ? Parce que je n'avais pas cette assurance que là où Dieu m'avait placé, c'était là où il serait aussi avec moi. Lorsque le Seigneur est venu délivrer son peuple de l'Égypte, il leur a donné un chemin à suivre. Et curieusement, ou malheureusement pour certains du peuple, le chemin dans lequel Dieu les avait orientés les a emmenés face à la mer. Il n'y avait plus d'issue à gauche, plus d'issue à droite. En face d'eux, il y avait la mer et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui arrivait. Pourtant, c'est Dieu qui les avait amenés là. Mais Dieu a dit au peuple, Dieu a dit à Moïse, dit au peuple, garde silence, car c'est moi qui va combattre. Ce qui était important, ce n'était pas l'endroit où ils se trouvaient. Ce qui était important, c'est qui les avait envoyés. Puisque c'est Dieu qui avait envoyé, ils devaient avoir cette certitude que Dieu était avec eux. Lorsque le peuple a péché, Dieu a voulu détruire ce peuple dans le désert. Moïse a prié, a dit, Père, si tu veux détruire ce peuple, alors enlève aussi mon nom du livre de vie. Le Seigneur a dit, je ne le détruirai pas, mais allez-y. Moïse a ajouté, pourquoi tu nous envoies si toi-même tu n'es pas avec nous? Moïse savait que cette manière de parler n'était pas, je dirais, conforme à la nature propre de Dieu. Comment Dieu pouvait les envoyer dans un endroit si lui-même n'était pas avec eux? Moïse a dit, à quoi ça sert que tu nous envoies si toi-même tu n'es pas avec nous? Ça ne sert à rien, alors nous resterons là. Nous irons seulement si toi-même tu es là avec nous. C'est cette manière que Dieu fonctionne. Gédéon a douté lorsque Dieu l'a appelé vaillant héros. Il dit, mais moi je suis le plus petit de ma famille, pourquoi moi? Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as, car c'est moi qui t'envoie. Va avec la force que tu as, car je serai avec toi. Lorsque le Seigneur, avant de s'en aller, sachant très bien que la mission qu'il avait confiée à ses disciples était une mission compliquée, nous avons vu, les disciples ont vu comment le Maître a vécu. Ils ont vu comment l'évangile n'a pas été accepté. Ils ont vu comment les gens se sont rebellés, combien même le Seigneur avait fait des miracles visibles aux yeux du peuple. La Bible dit qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et le Seigneur leur confiant cette mission, alors que les disciples avaient vu combien c'était difficile, le Seigneur savait qu'ils avaient aussi besoin d'une promesse à la hauteur de la mission. Et il leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ils avaient besoin de cette promesse pour pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire l'œuvre pour laquelle Dieu les avait appelés. Et dès l'instant, bien-aimés, où nous perdons l'assurance que Dieu est avec nous, là où nous sommes, bien-aimés, soyons certains que nous nous détournerons du plan de Dieu, soyons certains que nous ferons les mauvais choix. L'homme est rempli d'émotions. Nous avons la chair qui est visible aux yeux de tous, mais nous avons aussi une partie immatérielle qui est l'âme, dans laquelle se trouvent tous les sentiments. Et l'homme est une personne qui est très sensible. Et l'homme est une personne qui est influençable en fonction des sentiments. C'est pourquoi nous voyons combien de personnes, même dans la Bible, qui ont été détournées de la voie de Dieu à cause des sentiments. Samson est tombé, Samson, sa mission s'est arrêtée dès l'instant où il a aimé une femme. Et la femme l'a amené à dévoiler un secret. Et la fin était là. Parce qu'il a été pris par les sentiments. Il y avait un homme, un jeune prophète, que Dieu avait envoyé pour parler à un roi. Et il lui avait interdit, en rentrant, de s'arrêter chez qui que ce soit. Alors après avoir fait cette mission, ce jeune homme s'en allait. Le roi lui propose de rester. Il dit non, Dieu m'a interdit de m'arrêter quelque part. Alors sur la route, il croise un homme qui lui dit, je suis aussi prophète comme toi et Dieu m'a parlé. Un ange m'est apparu. Alors dans le sentiment, dans la compassion de voir son semblable, de voir quelqu'un peut-être qui le comprenait, il a accepté cette invitation. Mais la conséquence, c'est que par la suite, il a été puni et il fut déchiré par un lion, la Bible nous dit. Parce qu'il a désobéi à cause du sentiment. Donc dès l'instant où nous sommes influencés, soit par la colère, quelquefois par l'amour, quelquefois même par de fausses amitiés, tous ces sentiments-là vont nous influencer dans notre choix. Dans la colère, nous faisons quelquefois des choix que nous regrettons après. Dans la fausse amitié, nous faisons quelquefois des choix que nous regrettons après, parce qu'il y a des trahisons. Donc dès l'instant où nous avons des sentiments, ces sentiments-là peuvent influencer, changer nos décisions, changer notre manière de vivre à cause des sentiments. Et c'est la même chose, bien-aimés, que dès l'instant où nous n'avons pas la foi, qui est aussi un sentiment, lorsque cette foi n'est pas conforme à la volonté de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout notre comportement, nos décisions et nos choix vont être aussi influencés. Nous voyons aujourd'hui les personnes qui ne croient pas en Dieu. Leur vie, ils la pratiquent comme ils la veulent. Ils ne la pratiquent pas en se disant « Est-ce que Dieu est d'accord avec ça ou pas ?» Ce n'est pas leur problème. Mais celui qui a foi en Dieu, celui qui met son espérance en Dieu, aura le souci de faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que avoir la foi, foi en Dieu, bien-aimé, c'est être aussi dans l'assurance que Dieu est avec moi. Les épreuves par lesquelles nous passons, nous pouvons les surmonter si nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Mais ceux qui baissent les bras pendant les épreuves, ceux qui se rebellent contre Dieu pendant les moments difficiles, c'est ceux qui ont oublié que Dieu était aussi avec eux. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 48. Ézéchiel 48, à partir du verset 30. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. Trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issacar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Nephtali, une. Circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Nous allons dans Apocalypse, chapitre 21. Au verset 1er, la Bible dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'on nous parle des portes dans les différents endroits de la ville, les différentes portes en fonction du nombre du peuple, du nombre de la tribu d'Israël. Donc, ils étaient 12. Lorsque le Seigneur a fait entrer son peuple dans la terre promise, Ézéchiel va prophétiser sur le partage des terres. Et donc, dans ce partage, il va dire, voilà où se trouvera la porte de telle tribu, la porte de telle tribu, la porte de telle tribu. Alors, il dit que le nom de cette ville sera appelé « L'Éternel est ici ». Donc, le Seigneur veut montrer que dans cette ville, dans ce territoire qu'il a donné à Israël, lui-même habitera avec eux. Donc, en hébreu, il est dit « Yahvé Shama ». Donc, c'est-à-dire « L'Éternel est ici ». À travers le nom de Dieu, il voulait exprimer sa présence au milieu de son peuple d'une manière indéfinie, tant que le peuple demeure dans la vérité avec Dieu lui-même. Donc, cette ville-là marque la présence de Dieu sur le territoire qu'il a donné à Israël. Et dans Apocalypse, la Bible nous dit que la Terre Sainte, la Nouvelle Jérusalem, lorsqu'elle descendra, Dieu lui-même sera là au milieu des hommes. Dieu lui-même sera là au milieu de son peuple. Donc le Seigneur montre encore que là où il établit son peuple, lui-même demeure avec eux. La Bible nous dit que non seulement Dieu est Dieu, mais il est aussi notre Père. Et pour l'exemple que nous avons dans notre vie de chaque jour, c'est qu'un père est censé vivre avec sa famille. Un père est censé vivre au milieu de sa famille. Et Dieu est l'exemple du Père par excellence. Et il montre que là où il établit son peuple, lui-même demeure là au milieu d'eux. La volonté de Dieu, ce n'est pas que lui, il soit ici et le peuple soit ailleurs. Nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui dans le monde, comment de familles sont désordonnées lorsque les familles sont divisées. Que les enfants vivent d'un côté et que le père vive d'un côté. Nous voyons combien ça devient difficile même pour la société. Parce que Dieu a créé la famille pour qu'elle soit unie, pour que les parents vivent ensemble pour l'éducation des enfants. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les parents soient séparés des enfants. Mais le monde, tel qu'il nous le montre, bien-aimés, on voit que tout est devenu possible et tout est acceptable. Il y en a même par carrière professionnelle, ils se soucient de leur propre carrière plutôt que de se soucier de leur enfant. Mais dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas faire des enfants plutôt que d'en faire et de ne pas s'en occuper, bien-aimé. Là où le Seigneur a établi son peuple, c'est là où même le Seigneur dit « Je suis présent ». C'est dans la volonté de Dieu, c'est dans la nature de Dieu. Donc là où Dieu nous établit, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est là aussi au milieu de nous. Et le monde veut nous changer cette idée de présence de Dieu, en nous amenant ça et là. Quand je parle du monde, je parle même de l'Église telle que nous la vivons aujourd'hui, en instaurant des lois humaines dans lesquelles les personnes ne veulent plus vivre l'Église telle que la Bible nous le montre, mais ils veulent vivre l'Église à leur manière. Et ils sont ça et là, à toucher à gauche, à toucher à droite. Ils ont une vie spirituelle totalement instable. Ils n'ont pas compris que là où Dieu était, là où ils étaient, Dieu aussi est là. C'est pourquoi nous voyons certains font des kilomètres et des kilomètres. Parce qu'ils ont appris que dans tel pays, il y a telle onction. Ils ont appris que dans telle ville, il y a tel pasteur, il y a tel serviteur. Bien-aimé, comme si tout dépendait d'un homme. Tout dépend de Dieu. Je ne suis pas contre le fait que le Seigneur peut nous inspirer à voyager, à aller ailleurs. Je parle, bien-aimé, que lorsque nous sommes dans la recherche de quelque chose et que nous nous disons, certainement si je vais là-bas, il y aura une solution. Dieu dit que là où il nous établit, c'est là où il demeure. Dieu est maître de nous demander de changer d'endroit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la volonté de Dieu, c'est que lorsqu'il l'établit, que ça soit sur du long terme. Dieu est un Dieu stable. Et il veut aussi que ses enfants soient stables. Mais lorsqu'on va de gauche à droite, lorsqu'on cherche de solution en solution, c'est que nous sommes sortis de la stabilité de Dieu. Nous voyons à travers ces deux passages que lorsque Dieu établit, lorsque Dieu place son peuple dans un endroit donné, lui-même demeure là au milieu d'eux. C'est ça la volonté de Dieu. Nous voyons que lorsque le Seigneur a créé toutes choses, qu'il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu. Cette présence de Dieu a été bafouée, a été, je dis, détériorée à cause du péché. C'est la raison pour laquelle l'homme s'est retrouvé loin de Dieu, parce que Adam avait désobéi. Mais nous voyons tout au fil de l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'homme, que la volonté de Dieu a toujours été d'être proche de l'homme. Lorsque le Seigneur a sorti son peuple d'Israël, la Bible nous dit que de journée, ils étaient conduits d'une nuée. Donc bien que la nuée leur montrait la direction à suivre, mais elle manifestait aussi la présence de Dieu au milieu d'eux. La nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Bien que cette colonne leur permettait de voir la direction que Dieu leur demandait de suivre, mais elle manifestait aussi la présence de Dieu. Lorsque le peuple a marché, qu'ils ont fait l'arche de l'Alliance, cette arche symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc il y a toujours eu le souci de Dieu, par des signes, par des prodiges, de toujours manifester sa présence au milieu du peuple. Et aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, nous ne sommes plus conduits par des nuées, nous ne sommes plus conduits par des colonnes de feu. Nous n'avons pas besoin de l'arche de l'Alliance, mais Dieu nous a fait don de son Esprit Saint, afin que nous ayons cette assurance que là où nous sommes, lui-même est là avec nous. Alors si Dieu est là avec nous, bien-aimés, pourquoi aller chercher ailleurs? Si Dieu est avec nous, pourquoi dépenser de l'énergie à chercher, à fouiller dans des solutions d'hommes? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous inquiéter en cherchant des solutions humaines? Là où nous sommes, Dieu est là aussi avec nous. Il dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu lui-même demeure là au milieu de nous. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tant de promesses pour que nous ayons cette assurance que Dieu est présent avec nous. Bien-aimés, cette assurance va conditionner notre manière de vivre. Je l'ai dit, bien-aimés, que si nous vivons comme des personnes qui ont l'impression que Dieu est loin, notre vie, bien-aimée chrétienne, sera une vie triste. Mais si réellement nous avons saisi que Dieu est avec nous, quand bien même les temps pourront être difficiles, le fait de savoir que Dieu est présent, bien-aimé, va toujours nous apaiser. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Mais cette paix que Dieu nous donne, cette paix que le Seigneur nous propose, c'est une paix que nous pouvons vivre, bien-aimé, qu'en ayant l'assurance que Dieu est là, puisque c'est Dieu en nous qui produit la paix. Si nous avons l'impression que Dieu est trop loin, bien-aimé, nous serions dans des angoisses. Si nous avons l'impression que Dieu est loin, nous serions aussi dans les inquiétudes. Nous voyons comment la nature nous enseigne. Nous voyons comment le monde nous enseigne. Voyez comme un enfant est en sécurité, simplement le fait de savoir que son père le tient par la main. Mais la distance qu'il peut y avoir, si par exemple l'enfant est à 10 mètres et à côté il y a un chien qui fait peur à l'enfant, vous voyez la réaction de l'enfant. Mais il suffit juste que même si le chien est là, mais que l'enfant soit dans les bras, la réaction sera aussi différente parce qu'il sait qu'il est dans les bras de son père. Donc si nous nous sentons loin de Dieu, nous aurons aussi des réactions mauvaises qui vont nous influencer dans nos choix et qui nous conduira à faire des mauvais choix. Mais si nous avons cette ferme assurance que là où je me tiens, le Seigneur est aussi là avec moi, alors je manifesterai aussi un comportement digne de la parole de Dieu. Là où le Seigneur nous établit, c'est là où Dieu lui-même est avec nous. Nous sommes dans un monde tellement instable. Les choses changent du jour au jour. Nous voyons, bien aimé, comment fonctionne la bourse. D'une seconde à une autre, d'une minute à une autre, tout peut changer. Le cours des choses peut changer brutalement. Ça, c'est l'image du monde, bien-aimé. Nous avons vu des gouvernements. Le lendemain, coup d'État, le gouvernement change. Alors que certains avaient fondé leur espoir sur ce gouvernement-là. Et tout va changer. Nous sommes dans un monde instable. Nous avons vu lorsque, à un moment donné, la gauche était au pouvoir. Ils ont instauré le système des emplois jeunes. Alors beaucoup avaient fondé leur espoir sur ces contrats d'emploi jeunes bien-aimés parce qu'il y avait des promesses derrière. Mais lorsque la droite est venue au gouvernement, ils ont tout annulé. Une instabilité bien-aimée qui a amené beaucoup de gens au chômage. Aujourd'hui, les entreprises s'implantent dans un pays. Alors le cours des choses change parce que le prix des taxes augmente. Alors on quitte cet endroit pour aller à un autre et c'est des milliers de personnes qui se retrouvent dans le chômage. Nous sommes dans un monde tellement instable. Et cette instabilité-là a une influence sur l'homme qui fait que beaucoup se suicident, qui fait que beaucoup tombent dans la dépression nerveuse parce qu'ils se retrouvent dans une instabilité. Alors le Seigneur, connaissant cette instabilité-là, parce qu'il connaît l'homme et il connaît les systèmes de l'homme, bien-aimé, le Seigneur nous propose de vivre une stabilité en lui. Mais cette stabilité-là, nous pouvons la vivre qu'en ayant l'assurance que Dieu est présent, puisque c'est lui qui maintient cette stabilité. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle toutes choses. C'est lui qui est le Dieu de toutes circonstances. Donc c'est lui qui maîtrise tous les événements. Alors puisqu'il maîtrise les événements, lui seul est capable de les stabiliser. Et cette stabilité-là, nous ne pouvons la vivre qu'en étant dans le Seigneur, en acceptant le schéma qu'il nous propose et en acceptant principalement de marcher par la foi. Le Seigneur est venu nous proposer une stabilité puisque lui-même est un Dieu stable. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu est toujours Dieu. Il ne sera pas Dieu aujourd'hui et puis demain, il sera un peu moins Dieu. Un peu plus Dieu un autre jour et encore un peu moins Dieu. Il est Dieu au siècle des siècles et ça, personne ne peut le changer. Et c'est cette stabilité par laquelle lui-même se caractérise que Dieu veut nous faire entrer, afin que nous puissions être stables. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Un arbre bien-aimé est stable, là où il sait qu'il est à l'aise, là où il sait qu'il va être abreuvé chaque jour, en ne manquant de rien du tout. L'arbre est là, planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu, est semblable à cet arbre-là. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous stabiliser comme les arbres eux-mêmes sont stables, bien-aimés. Ils ne sont pas tourmentés, car ils savent que là où Dieu les a plantés, c'est aussi là où Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Certains sont plantés quelque part par le Seigneur, mais ils vont chercher des besoins à l'Occident. Ils vont chercher des besoins en Orient. Dieu dit que non, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que viennent les choses, mais les choses viennent de Dieu. Donc si Dieu établit quelque part, c'est que c'est là aussi où il a choisi de pourvoir bien-aimé, et pas ailleurs. Nous lisons psaume 93. Psaume 93, nous allons lire plusieurs passages qui nous montrent que notre Dieu est un Dieu qui aime la stabilité. Psaume 93, la Bible dit au verset 1er. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leurs voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Amen. Le monde est ferme aussi, il ne chancelle pas. Lorsque Dieu a créé toute chose, la Bible dit que tout était bon. Le péché est entré et le péché a changé la nature du monde. Mais aussi bien que la nature, telle que Dieu l'avait souhaitée, a été changée, d'une manière générale, les choses subsistent toujours selon le bon vouloir de Dieu. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Donc le monde tel qu'il existe, tel qu'il a été formé, existe encore aujourd'hui, est encore ferme encore aujourd'hui, selon les lois que Dieu lui-même a instaurées. La Bible dit que son trône est établi dès les temps anciens. Lorsqu'on parle d'établissement bien-aimé, on parle de quelque chose qui va être posé sur du long terme. Lorsqu'on établit, c'est-à-dire qu'on pose des fondements, et les fondements ne sont pas faits pour être changés. Lorsqu'on fonde quelque chose, c'est fait pour être le socle, c'est fait pour être la matière, la base qui va soutenir tout le reste. Donc la Bible nous dit que le trône de Dieu est établi. Ça veut dire que ce qui est établi, bien-aimé, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le changer. Donc Dieu lui-même manifeste qu'il est dans une position qui est stable. Nous lisons Jérémie chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 4. Dieu s'adressant à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur Éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et me toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Le Seigneur s'adresse à Jérémie. Il lui dit, depuis le sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur bien-aimé met l'accent sur le fait de consacrer et d'établir. Il nous montre là un lien qui est fort bien-aimé. Le fait d'être consacré, c'est-à-dire le fait d'être choisi, d'être désigné pour une mission quelconque, une mission définie par Dieu. Donc, lorsque l'on choisit quelque chose, bien-aimé, ça nécessite avant cela une réflexion. Lorsque l'on choisit, c'est parce qu'on a été confronté à divers choix et on choisit de prendre telle position ou telle position. Donc, le fait d'établir nécessite, bien-aimé, une longue réflexion. Donc, lorsqu'on établit des fondements, c'est parce qu'on a jugé que ce sont ces fondements-là qui permettront de soutenir le reste. Lorsqu'on établit une personne dans une fonction, c'est parce qu'on l'a jugé digne, on l'a jugé apte à remplir cette fonction. Lorsqu'on établit une personne dans un rôle, c'est parce qu'on a jugé qu'il avait des capacités pour ce rôle et pas pour un autre. Donc, lorsque Dieu établit une personne, c'est que Dieu a fait le tour de la question. C'est que Dieu a donné les capacités, c'est que Dieu a jugé que cette personne, telle chose, telle institution avait les moyens de pouvoir faire la mission pour laquelle Dieu allait appeler. Donc Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré, mais je t'ai établi. Donc lorsque Dieu établit, bien-aimé, c'est pour quelque chose de durable. Et nous voyons que Jérémie répond, mais je suis un enfant. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Donc, lorsque Dieu établit bien-aimé, c'est que forcément, il est avec nous. Dieu nous établit dans un endroit parce qu'il est avec nous. Il est avec nous, bien-aimé, parce que c'est lui seul qui a la capacité de pouvoir tenir ferme. Il soutient toute chose par sa parole. Donc, lorsque le Seigneur nous établit dans un rôle, dans un endroit, puisque c'est lui-même qui soutient le travail qui doit être fait, c'est obligatoire que lui-même soit là. Puisque humainement parlant, bien-aimés, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande de faire avec notre propre force. Pour faire ce que Dieu nous demande de faire, nous avons besoin de lui-même. Donc en réalité, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Mais ce qui doit être bâti à partir de nous, l'est par le Seigneur qui lui-même soutient toutes choses, que lui-même qui nous a établis, eh bien, c'est lui qui nous soutient. Et ça, c'est à partir de lui que tout le reste va se faire. Mais tout le reste ne peut se faire, bien-aimé, encore une fois, que si nous avons cette assurance-là, que Dieu est présent. Nous lisons Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, à partir du verset 14. Nous lisons à partir du verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et ensuite, le Seigneur nous donne la liste des apôtres qu'il choisit. Bien-aimés, la Bible dit qu'il appela ceux qu'il voulut. Donc, si le Seigneur a voulu, bien-aimés, c'est qu'il y a eu une réflexion derrière. Et d'autres passages nous disent que Jésus-Christ pria toute la nuit avant de choisir ses disciples et de les établir pour aller prêcher la bonne nouvelle. Donc avant d'établir, il y a le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour nous bien-aimés se fait à tous les niveaux si nous lui avons consacré sa vie. Lorsque Dieu décide de nous établir pour que nous soyons stables, bien-aimés, il le fait pour que nous le soyons dans nos familles. Donc si Dieu nous établit dans une famille, bien-aimés, c'est dans notre intérêt que Dieu choisisse le mari ou la femme qu'il veut pour nous. Car si c'est lui qui choisit pour nous, bien-aimés, il le soutiendra aussi. Si c'est Dieu qui établit, bien-aimés, c'est pour que nous soyons stables dans nos maisons. Mais le monde nous montre qu'on peut faire toutes sortes de choses sans garantie. Prendre une femme et demain, en prendre une autre. Et cette instabilité, ce sont les enfants qui la subissent. Et quand les enfants ne sont pas bien, c'est la société aussi qui n'est pas bien. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons stables sur tous les points de vue. Et la famille est un endroit dans lequel Dieu veut qu'on se stabilise. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Parce que lorsqu'on a deux positions bien-aimées, lorsqu'on n'est pas un seul, on finira par être stable, instable. Parce que tel voudra aller à gauche, l'autre voudra aller à droite. Mais lorsque nous sommes une seule chair, nous sommes censés avoir le même objectif. Nous sommes censés prendre la même direction. Je ne parle pas bien aimé sur des discussions sur la couleur du papier peint ou bien la couleur de la voiture. Je parle des décisions essentielles qui doivent conduire la famille. Et les deux deviendront une seule chair. C'est en étant une seule personne que nous pouvons avoir une stabilité dans la vie de famille. Mais lorsque chacun a sa position, lorsque chacun a ses propres désirs, bien aimé, c'est normal qu'un jour le bateau finisse par couler. Dans le souci de nous amener à une stabilité, le Seigneur a dit que l'homme devient une seule chair avec la femme. Une seule chair, bien aimé, on parle de mariage, hein, on se comprend. Amen. Voilà. La stabilité, c'est dans le mariage qui est le signe de l'engagement de l'un et de l'autre. Alors nous voyons bien aimé que combien même les divorces se font, alors à combien plus forte raison quand il n'y a pas eu d'alliance, quand il n'y a pas eu de symbole fort, les gens ont la facilité de se séparer. Dieu a voulu nous rendre stables aussi dans la vie de famille. puisque Dieu est stable, qu'il a fait de nous ses enfants. Mais il voudra aussi nous rendre stables dans la nouvelle famille dans laquelle il nous a amenés, la famille spirituelle. Et cette stabilité, nous ne pouvons que la vivre avec les moyens de Dieu. Le Seigneur a dit, vous entendrez parler des bruits de gauche et de droite, vous disant le Seigneur est là-bas. Le Seigneur est ici. Le Seigneur lui-même a dit, n'y allez pas. Ne croyez pas. Là où Dieu établit ses serviteurs, c'est là où lui-même, Dieu est aussi. Quand je parle de serviteur bien-aimé, je ne parle pas de pasteur, de prophète ou d'apôtre, non. Le serviteur, c'est toute personne qui a accepté le Seigneur devient un serviteur de Dieu. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui ne le savent pas. Non pas parce que Dieu l'a caché, mais parce qu'ils ne veulent pas vivre comme des véritables serviteurs. Comme ça, ça permet de rejeter la faute à ceux qui dirigent les églises. Mais sachons bien aimé que Dieu nous jugera individuellement. Chaque chrétien est serviteur de Dieu. Dans sa maison, dans son lieu de travail, partout où Dieu l'envoie, il doit se considérer comme un serviteur de Dieu dans l'endroit où Dieu l'a placé. Certains quittent les églises simplement parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y a plus d'onction. Alors que Dieu l'avait placé à un endroit. Il vient s'implanter 3 mois. Après, il va dans un autre endroit 6 mois. Quand il finit là-bas, il va dans un autre endroit 1 an. Finalement, bien-aimé, Dieu nous a établis où ? Dieu est un Dieu de stabilité. Si c'est réellement Dieu qui nous établit à un endroit, c'est parce qu'il sait que dans cet endroit, il y aura tout ce qu'il faut pour nous amener à la maturité que Dieu a prévue. Et beaucoup ne grandissent pas spirituellement parce que le processus de croissance revient toujours à la case départ. Là où Dieu le place, il y a un travail qui commence, il arrête, il va ailleurs. Et il reste toujours à un niveau bas spirituellement. Si Dieu nous place à un endroit, c'est que Dieu a jugé que c'est là où il pourvoira à toutes choses. Voyons comment la première église vivait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La Bible dit qu'ils étaient assidus tous au même lieu. Ils avaient tout en commun. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Ils avaient une manière de vivre qui était agréable à Dieu. Mais nous voyons que l'homme a toujours cette soif de vouloir voyager là où ça semble être meilleur, parce qu'il marche par la vue. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, 25. Ne quittez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de beaucoup, mais exhortez-vous réciproquement. On ne dit pas, bien aimé, que là où il y a la fausseté, il faut rester, il faut fuir. Là où il n'y a pas la vérité, il faut fuir. Mais là où nous avons jugé qu'il y avait la vérité, là où nous avons confessé que c'était Dieu qui nous avait établis, Dieu veut nous faire comprendre que pour des petits problèmes, arrangez-vous. Ce n'est pas l'excuse pour fuir. Ce n'est pas l'excuse pour partir, puisque Dieu est un Dieu de stabilité. Si Dieu nous a placés à un endroit bien-aimé, alors nous devons vivre conformément à ce que Dieu attend de nous. Parce que là où Dieu nous a placés, c'est que Dieu y est aussi. Aller dans un autre endroit en pensant que Dieu sera plus là-bas, bien aimé, c'est une erreur. Dieu est là où il y a la vérité. Aller dans un autre endroit en pensant que c'est là-bas que j'aurai ma guérison, c'est une erreur, bien aimé. Beaucoup, en pensant aller dans tel endroit pour des guérisons, ils sont revenus avec des démons. En recevant des impositions de main, des serviteurs qu'ils ne connaissent même pas. Beaucoup en quittant des endroits, en allant là-bas parce qu'ils se disent que c'est là-bas qu'on va m'utiliser. Aujourd'hui, ils sont dans l'orgueil. Ils sont sortis de la vérité. Mais ici, on n'utilise pas. Pourtant, j'ai des capacités. Bien-aimé, quel homme peut empêcher Dieu de se servir d'un homme? Quel pasteur, quel prophète, quel évangéliste, tout ce que vous voulez, bien-aimé, peut empêcher Dieu d'utiliser un homme? Si Dieu t'établit dans un endroit et que Dieu a décidé que c'est là que tu le serviras, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est là que tu le serviras. Mais en allant ailleurs, en se disant, parce que là-bas, on m'utilisera. Là-bas, on m'a fait de belles promesses. Le Seigneur a dit, vous entendrez que je suis à gauche ou à droite, n'y allez pas. On va nous appeler par des belles paroles. On va nous appeler par des belles propositions. La Bible nous dit dans l'Épître à Jacques que Dieu ne tente personne. Mais lorsque nous sommes tentés, bien-aimés, nous le sommes quelquefois par la convoitise de notre propre cœur. Ce que nous avons au fond de notre cœur, c'est ce que l'ennemi viendra nous proposer un jour. On ne tombera pas parce que Dieu l'a permis, comme certains diront, mais c'est Dieu qui permet. Non, Dieu n'envoie pas la tentation. On sera tombé parce que dans notre cœur, il y avait des mauvaises motivations. Il y avait des désirs qui n'entraient pas dans la volonté de Dieu. Vouloir servir Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Mais vouloir servir Dieu rime avec la volonté de Dieu, rime avec le temps de Dieu. Là où Dieu nous établit, bien-aimé, c'est là où Dieu manifestera aussi une grande protection. Beaucoup sont sortis de la volonté de Dieu. Beaucoup ont été frappés de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas voulu demeurer là où Dieu les avait établis. Nous connaissons, bien-aimés, l'histoire de Noémie, l'histoire de Ruth. Il y avait un homme qui était dans un territoire dans lequel Dieu l'avait établi. La Bible nous dit que 21 ans, il eut la famine. Alors, il alla dans une terre étrangère. En allant dans cette terre étrangère, lui-même mourut. Ses fils aussi moururent. La femme se retrouva seule avec ses belles filles. Et ils apprirent que là où il y avait eu la famine, Dieu avait visité son peuple. Là où Dieu nous établit, c'est là où Dieu pourvoira. Combien même il y aura des tempêtes, combien même il y aura des moments difficiles. Si c'est là où Dieu nous a établis, c'est là où aussi Dieu se manifestera. Dieu avait dit à son peuple, va devant la mer et attends. C'est là où Dieu avait demandé à son peuple d'attendre. Et de leurs yeux, ils ont vu la mer s'ouvrir en deux pour leur céder le passage. Parce que c'est Dieu qui les avait envoyés à cet endroit. Mais lorsqu'on cherche à fuir, là où Dieu nous établit, bien-aimés, on finira par mourir un jour spirituellement. On finira par mourir un jour, bien-aimés. Là où Dieu nous a établis, c'est là où Dieu pourvoira. Le Seigneur a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, nous entendrons des bruits, la Bible dit, ne croyons point. Si on nous fait croire que Dieu est plus dans un endroit que dans un autre, bien-aimé, ça, ce n'est pas une réalité. Il peut y avoir des concours de circonstances de la vie dans lesquels Dieu s'impose en nous faisant déménager, en nous faisant changer de travail qui nous amène dans un autre endroit. Bien-aimé, je ne parle pas de ça. Je parle des choix que nous faisons consciemment. Parce que nous voulons justifier que là, ce n'est pas bon pour moi pour telle ou telle raison. Des raisons, bien-aimées, dans lesquelles, en réalité, ce sont des excuses. Parce que nous voulons fuir quelque chose. Ce sont des excuses parce que nous refusons de nous soumettre. Là où Dieu nous établit, c'est là où Dieu pourvoira. Nous lisons le psaume 139. Puisque Dieu nous établit, bien-aimés, soyons certains que la volonté de Satan, c'est de nous déstabiliser. C'est de faire de nous des personnes totalement instables. Et lorsqu'on est instable, finalement, on finit par tourner en rond. Parce que là où nous allons, on ne trouve jamais ce qu'il nous faut. Déjà, l'homme, naturellement, est éternellement insatisfait. il ne se contente jamais de ce qu'il a. Déjà naturellement. Et lorsque nous refusons d'abandonner cette vieille nature, en gardant un peu des restes du monde bien-aimé, en venant au Seigneur, c'est ce même comportement que nous recommençons. Et nous ne grandissons pas, nous tournons en rond et nous allons de déception en déception. La Bible dit, psaume 139, au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont point obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Voilà le constat que fait David. Seigneur, tu connais toutes choses. C'est toi qui me sondes. Tu connais au plus profond de moi. Où fuirai-je loin de ta face? Même si je vais dans le ciel, Seigneur, tu seras là. Dans le séjour des morts, tu seras là aussi. Au moins, si je me dis les ténèbres arriveront, je vais me cacher. Mais tout devient lumière. Rien ne se dérobe à la face de Dieu. Certains diront, mais vraiment, mais ce Dieu-là, il ne peut pas nous laisser un peu vivre. Partout où je suis, lui aussi, il est là avec moi. Donc finalement, je n'ai pas d'intimité. D'autres diront, mais ce Dieu-là, mais c'est vraiment un dictateur. Tout ce que je fais, il surveille. Tout ce que je mange, il voit aussi. Mais ce Dieu-là, mais vraiment, je ne peux faire aucun choix. Même ma femme, je ne peux pas choisir. Même mon mari, je ne peux pas décider. Mais vraiment, mais ce Dieu-là est trop compliqué. Mais David finit par dire que Dieu est merveilleux. La science de Dieu est merveilleuse. Il y a ceux qui auront l'intelligence et qui diront, mais quelle grâce de savoir finalement que partout où je vais, Dieu est avec moi. Même dans les ténèbres, lorsque j'ai l'impression d'être abandonné, finalement Dieu est là. Même lorsque je suis affligé parce que j'ai l'impression que l'épreuve va m'emmener jusqu'à la mort, finalement même Dieu est là. David a vraiment connu Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc finalement, même lorsque je suis dans le manque, Dieu le sait. Finalement, lorsque je m'inquiète, je n'ai plus besoin de m'inquiéter puisque Dieu est là. Dieu connaît mon problème. Puisque Dieu est là, bien-aimé, alors pourquoi s'embêter? Pourquoi être dans la tristesse? Le Seigneur dit, mais qui, par la tristesse, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses tracasseries, par toutes ses réflexions, peut changer le cours de sa vie? Puisque Dieu est présent, bien-aimé, pourquoi aller chercher ailleurs? Lorsque le Seigneur est ressuscité, bien-aimé, les disciples étaient encore dans la tristesse. Ils courent vers le tombeau du Seigneur. Le tombeau était vide. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient abattus. La Bible dit qu'il y avait des anges qui étaient là. Et les anges leur disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher dans les solutions humaines celui qui donne la vie? Pourquoi chercher auprès d'un homme celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme? Pourquoi chercher dans tout ce qui est fait de main d'homme alors que Dieu est là? L'ange leur a dit, mais souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit, ne fallait-il pas qu'il meure et qu'il ressuscite? Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant et vous venez le chercher parmi les morts. Le Seigneur est présent, bien-aimé. Pourquoi voulons-nous aller faire des chemins de la croix, à marcher une distance, les genoux, pour se faire mal, bien-aimé? Sacrifier l'argent du loyer pour aller je ne sais pas dans quelle ville pour chercher de l'eau bénite. Au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu, au lieu de s'occuper des enfants, on paye des billets d'avion pour aller voir tel serviteur. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? L'homme finira dans le tombeau un jour, bien-aimé. La solution ne se trouve pas auprès des hommes. La solution se trouve auprès de Dieu. Or, Dieu nous dit de ne pas aller chercher loin. Là où nous sommes, il est là aussi. Il dit que lorsque nous prions dans notre chambre, Dieu est là et il entend. La prière du pasteur sera peut-être plus efficace. Dieu dit que lui, il entend. Bien-aimé. Pourquoi aller chercher parmi les morts celui qui est vivant? Dieu voit tout. David a dit que même dans les cieux, si je vais, il est là aussi. Dieu est présent. Là où il établit son peuple. Là où il nous établit, Dieu s'établit aussi. Bien-aimé, la présence de Dieu est manifeste à partir de ce que Dieu établit. Le pays de Canaan que Dieu avait donné à Israël était habité par d'autres peuples. Pourtant, Dieu leur avait donné. Donc, physiquement et même spirituellement, ce territoire-là appartenait à Israël parce qu'il était à Dieu et Dieu leur avait donné. Mais contre les autres nations, voyez le pays des Cananéens. Pendant le temps où Israël n'y vivait pas encore, est-ce que ces nations-là pouvaient dire que ça, c'est le territoire d'Israël? Ils ne pouvaient pas le dire puisque c'était un autre peuple qui était là. Mais il fallait que Israël soit là physiquement pour que les gens puissent comprendre que ça, c'est le territoire d'Israël. Donc là où Dieu nous établit, bien-aimés, c'est à partir de nous que les autres verront que Dieu lui-même est établi à cet endroit. Là où Dieu nous établit, c'est à partir de là, dans notre manière de vivre, que les gens verront aussi que Dieu est là. Donc pour que Dieu soit établi quelque part, dans son fonctionnement, dans son schéma, il a choisi d'utiliser les hommes. Il a choisi d'utiliser son peuple. Afin que les gens voient. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, la Bible dit la parole faite chair. Cette parole que le peuple ne comprenait pas. Il fallait qu'elle devienne matérielle pour que ceux qui ne l'ont pas vu, pour que ceux qui ne l'ont pas compris, à travers Jésus-Christ, puissent le voir. Et quand ils l'ont vu, le Seigneur a dit, le royaume des cieux s'est approché, puisque le Seigneur lui-même manifestait la présence de Dieu. Nous, nous connaissons la présence de Dieu par la foi. Nous l'acceptons par la foi. Mais les gens du dehors voient la présence de Dieu par l'Église. C'est l'Église qui doit représenter la présence de Dieu. Bien-aimés, donc comprenons que là où l'Église, là où le nom de Dieu est représenté, c'est que forcément Dieu y est aussi. Économisons nos forces, bien-aimés, pour la prière. Économisons nos forces pour méditer la parole de Dieu. économisons nos forces pour mettre la parole de Dieu en pratique. Plutôt que de voyager, plutôt que d'aller de gauche à droite pour chercher Dieu, bien-aimé. Comment pouvons-nous chercher celui que nous confessons est notre Seigneur? Si nous avons confessé qu'il est notre Seigneur bien-aimé, c'est que nous l'avons déjà trouvé. Alors comment chercher quelqu'un qu'on a déjà trouvé? Bien-aimé, on peut nous prendre pour des fous. Et vous voyez quelquefois comment on peut se retrouver bête. Lorsqu'on cherche par exemple les clés de la voiture et quelquefois ça dans notre main. Ou bien elles sont dans la poche. La clé, nous l'avons et nous sommes en train de la chercher partout et quand on se rend compte, elle était dans notre main, bien-aimé. Alors comment chercher Dieu de gauche à droite si lui, il dit qu'il est présent au milieu de nous? Bien-aimé, Dieu est bon. Le monde est instable. Et pour vivre dans ce monde instable, nous avons besoin de la présence de Dieu. Le Seigneur nous a simplifié les choses, bien-aimé. Mais cette simplicité, nous ne pouvons la vivre que par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que nous pouvons comprendre que la création a existé à partir de l'invisible. C'est par la foi que nous pouvons accepter que ce que nous voyons a été créé par Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, que nous pouvons croire que là où nous sommes, Dieu est avec nous. Il nous a donné sa vie, il nous a donné l'Esprit Saint, bien-aimé. Et si nous voulons aller de gloire en gloire avec Dieu, nous devons avoir cette assurance que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pour avoir cette assurance que personne ne peut être contre nous, il faut avoir cette assurance que Dieu est pour nous déjà. Mais lorsqu'on est dans la rébellion, qu'on remet toujours en doute les choix de Dieu, quand on est toujours dans la rébellion vis-à-vis de Dieu bien-aimé, comment pourrions-nous avoir cette assurance que Dieu est avec nous? Faisons-lui confiance. Dieu nous a aimés, il a donné Jésus-Christ à la croix, bien-aimé. Et aujourd'hui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous réalisons encore, Seigneur, que c'est vrai, tu soutiens toutes choses par ta parole. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui encore, c'est parce que tu l'as voulu. Seigneur, si nous pouvons élever la voix aujourd'hui encore, c'est parce que tu l'as voulu. C'est toi qui nous soutiens en toutes choses. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est vrai que bien souvent, nous nous sommes confiés dans la chair. C'est vrai que bien souvent, Seigneur, nous nous sommes rebellés. Nous avons murmuré, Seigneur. Nous nous sommes inquiétés parce que nous avions oublié que tu étais là toi-même avec nous. Dans l'épreuve, nous avons cherché des solutions auprès des hommes au lieu de crier à toi, Seigneur. Dans le besoin, nous avons cherché des solutions auprès des hommes parce que nous avions oublié, Seigneur, que tu étais notre papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, restaure-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, mets en nous cette conviction que là où nous sommes, toi tu y es aussi. Seigneur, tu as dit que dans la fin des temps, il se fera des prodiges et des miracles par des faux docteurs. Tu as dit, Seigneur de gloire, que vous entendrez des bruits comme quoi tu es dans tel endroit ou dans tel endroit. Seigneur, tu nous as dit de prendre garde, Seigneur. Car tu sais, Seigneur de gloire, que là où nous sommes, Seigneur, toi-même, tu es là avec nous. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur de gloire, comme tu as dit, Seigneur, que nous, les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Seigneur, nous savons les aimer. Nous savons nous comporter comme des pères, Seigneur. Alors à combien plus forte raison toi? Seigneur, ce matin, aide-nous à réaliser que tu n'es pas seulement le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais tu es aussi notre papa qui veut pourvoir chaque jour à nos besoins, qui veut étendre ta main chaque jour sur nous, Seigneur, qui veut veiller sur nous chaque jour, de nuit comme de jour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de gloire à considérer que tu es là tout proche de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, combien même le passé a pu être difficile au moment, Seigneur, où nous nous posions des questions, mais où étais-tu, Seigneur? Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, nous savons que tu étais là. Et que maintenant, Seigneur de gloire, que tu es le Seigneur de notre vie. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que oui, tu étais là. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Car certainement que si nous n'avons pas vécu tout ce que nous avons vécu autrefois, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne pourrions même pas élever la voix, Seigneur, pour te dire combien tu es bon. Seigneur, merci pour les souffrances que tu as permises, dans lesquelles nous avons été brisés, dans lesquelles nous avons été humiliés, pour reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Tu as fait la promesse, Seigneur, de gloire, en disant que ton père et ta mère t'abandonnent. Mais moi, ton père, moi, l'Éternel, je te recueillerai. Seigneur, merci de nous avoir adoptés, nous qui étions pécheurs. Merci d'avoir fait de nous tes enfants.